À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique ici à Washington. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Au Niger, l'attaque d'un poste de police à Ayoru dans l'ouest a fait 2 morts et plusieurs blessés. Les nouvelles autorités soudanaises ont annoncé qu'elles allaient livrer l'ancien président Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta annonce l'ouverture d'un dialogue avec les djihadistes. Nous irons aussi à Dakar à la rencontre des repates, ces Sénégalais de la diaspora qui ont choisi de rentrer au pays. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, nouvelle attaque au Niger. 2 policiers ont été tués lundi lors d'un assaut contre un poste de police dans la région de Tillaberi, dans l'ouest, près du Mali. Nous faisons le point avec Abdourahmane Dia.
L'attaque, qui a aussi fait un blessé grave, est survenue à quelques kilomètres de la ville d'Ayoru, une localité touristique située à 200 kilomètres de Niamey. Les forces de défense et de sécurité ont engagé une poursuite contre les terroristes venus sur une dizaine de motos et leur riposte et surtout l'arrivée de renforts ont permis de mettre en déroute les assaillants, a expliqué une source sécuritaire. Des témoins ont déclaré aux autorités locales que les terroristes ont également perdu quelques hommes mais ont réussi à emporter les corps. En fin de semaine passée, 5 civils, dont un enseignant, ont été tués dans ce même secteur par des hommes armés à moto, d'après le gouvernorat de Tillaberi. Cette région, située dans la zone des 3 frontières, Niger-Mali-Burkina, est depuis 3 ans le théâtre d'attaques récurrentes et de plus en plus meurtrières des groupes djihadistes. Selon le bilan officiel, 174 soldats ont été tués dans 3 attaques à Tillaberi en décembre et janvier, dont celle de Chinegodar avec 89 morts. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique.
Coup d'envoi au Burkina de l'inscription des électeurs pour les élections présidentielles couplées aux législatives prévues en novembre 2020. L'enrôlement des électeurs durera jusqu'en avril et se déroule dans un contexte national difficile, a déclaré Newton Ahmed Barry, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Frontalier du Mali et du Niger, le Burkina Faso est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 750 morts depuis 2015 et contraint plus de 600 000 personnes à fuir leur foyer. Le groupe État islamique a revendiqué aujourd'hui l'attaque suicide qui a fait 1 mort dimanche contre une base de l'armée dans le sud de l'Algérie, près de la frontière avec le Mali. Les 2 derniers attentats revendiqués par l'EI en Algérie ont eu lieu en 2017. L'attaque de dimanche survient au moment où l'Algérie s'efforce de s'impliquer dans le règlement des crises régionales en Libye et au Sahel. Les Soudanais recherchés par la Cour pénale internationale seront traduits devant cette juridiction. Ainsi en ont décidé les participants au pourparlers de paix inter-soudanais de Djouba au Soudan du Sud. Plus de détails avec Timothée Donangmaï.
L'information a été donnée sans autre précision par Mohamed Hassan Al-Tashi, membre du Conseil souverain soudanais au pouvoir à Khartoum. Des représentants de cette instance sont en discussion avec les rebelles du Darfour à Djouba. L'ancien président soudanais Omar el-Béchir et 3 de ses collaborateurs ont été inculpés de génocide et crimes de guerre par la CPI. Toutefois, un porte-parole de la Cour s'est refusé à tout commentaire au sujet de leur éventuel transfert à la haie. Selon Mohamed Hassan Al-Tashi, les pourparlers de Djouba sont axés sur la justice et la réconciliation au Darfour, où, selon les Nations Unies, il y a eu quelque 300 000 morts et des millions de déplacés depuis le début du conflit dans cette région. Un tribunal spécial sera mis sur pied pour enquêter sur ces crimes, a-t-il précisé. Avant son renversement par un coup d'État en avril dernier, Omar Hassan al-Béchir a visité divers pays africains, la Russie et la Chine, en dépit de son inculpation par la CPI.
Des milliers de Kenyans ont rendu un dernier hommage aujourd'hui à l'ex-président Daniel Arap Moi lors de ses funérailles d'État. Le 2e président du Kenya dirigea le pays d'une main de fer de 1978 à 2002. Devant plus de 30 000 personnes, le président Uhuru Kenyatta a salué un champion du panafricanisme. La police égyptienne a abattu 17 djihadistes présumés lors d'une opération dans le nord de la péninsule du Sinaï, région du nord-est en proie à une insurrection depuis plusieurs années. Des fusils, des grenades et des ceintures explosives ont été retrouvés sur les lieux.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le nombre de personnes tuées par le coronavirus a franchi la barre du millier. Des morts presque toutes en Chine. L'Organisation mondiale de la santé parle désormais d'une très grave menace pour le monde. Toutefois, l'OMS estime qu'il y a une chance réaliste de stopper la propagation du nouveau coronavirus qui porte désormais un nouveau nom, le Covid-19. Plus de précisions avec Irénée Herman Ungbo.
Le bilan du coronavirus a atteint 1016 morts en Chine continentale selon les autorités sanitaires chinoises. Elles ont annoncé 108 nouveaux décès en 24 heures, le plus lourd bilan quotidien enregistré à ce jour, tandis que le nombre des cas confirmés de contamination est estimé à plus de 42 000. Cela reste une grande urgence pour ce pays, mais constitue aussi une très grave menace pour le reste du monde, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, devant 400 scientifiques réunis mardi et mercredi à Genève. À l'ouverture de cette réunion qui passera en revue les moyens de combattre l'épidémie, il a appelé tous les pays à faire preuve de solidarité en partageant les données dont ils disposent sur le virus. Les ministres européens de la santé se réuniront de leur côté en urgence jeudi à Bruxelles pour discuter des mesures coordonnées contre l'épidémie. En dehors de la Chine continentale, le virus a déjà tué deux personnes, une aux Philippines et une autre à Hong Kong. Plus de 400 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Le premier décès imputé au virus 2019, NCOV, apparu en décembre dans la ville chinoise de Wuhan, avait été annoncé le 11 janvier.
Ici aux États-Unis, les électeurs du New Hampshire votent ce mardi dans les primaires démocrates de leur État. 10 rivaux sont en lice pour défier le président Donald Trump en novembre prochain. Nous faisons le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les candidats ont fait campagne jusque tard lundi pour arracher les faveurs des électeurs du New Hampshire. Pete Buttigieg, 38 ans, l'avait emporté devant Bernie Sanders le 3 février lors d'assemblées d'électeurs dans l'Iowa. Cette fois-ci, le scrutin se tiendra à bulletin secret. Prônant une révolution politique pour parvenir à une société plus égalitaire, le sénateur Sanders, 78 ans, est en tête des sondages au New Hampshire. Il est suivi par Pete Buttigieg, ancien maire de South Bend, dans l'Indiana, qui plaide pour une politique réaliste et de main tendue aux électeurs indépendants et républicains. Derrière eux, la pression est forte sur Joe Biden depuis sa 4e place dans l'Iowa. L'ancien vice-président accuse Pete Buttigieg de manquer d'expérience en politique nationale. Parlant de Bernie Sanders, il a affirmé qu'il serait difficile de se rallier derrière un candidat socialiste. Le milliardaire Michael Bloomberg a grimpé jusqu'à la 3e place dans un sondage au niveau national publié hier. Il entrera en liste le 3 mars pour le Super Tuesday. Donald Trump, qui jouera un second mandat le 3 novembre, s'est invité hier dans la campagne démocrate en organisant un meeting dans le New Hampshire. Ils sont tous faibles à lancer le président américain.
Le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé solennellement aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU rejeter le plan de prêt israélo-américain. Ce plan, ajouté le président palestinien, est un gruyère suisse qui remet en question les droits légitimes des Palestiniens. Dans le même temps, au moins 5000 Palestiniens ont manifesté en Cisjordanie dans la bande de Gaza contre ce projet américain. La Palestine n'est pas à vendre ou à bas le deal du siècle, pouvait-on lire sur des pancartes de manifestants dans le centre de Ramallah. C'est la plus importante manifestation dans les territoires palestiniens en soutien à Mahmoud Abbas ces dernières années. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a accusé aujourd'hui l'Iran de renforcer ses compétences dans le domaine des missiles balistiques par le biais du lancement d'un satellite. Il a appelé à exercer davantage de pression sur le régime de Téhéran. En Iran, des grands rassemblements ont eu lieu à l'occasion du 41e anniversaire de la révolution islamique. Le président Hassan Rouhani a fustigé les États-Unis devant une foule immense à Téhéran, scandant des slogans anti-américains. Dans un tweet en anglais, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a jugé que l'énorme participation au rassemblement de Téhéran constituait un message à l'adresse de Donald Trump. Au Bangladesh, au moins 15 personnes sont mortes noyées, une cinquantaine sont portées disparues dans le naufrage aujourd'hui d'un bateau surchargé de réfugiés Rohingyas. Les 138 passagers, principalement des femmes et des enfants, espéraient gagner la Malaisie à plus de 2000 km à bord d'une embarcation de pêche d'à peine plus de 13 mètres de long. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nathalie Barge.
Hausse de la prime mensuelle de transport dans le secteur privé en Côte d'Ivoire. Elle est augmentée de 5 000 francs CFA pour le district autonome d'Abidjan et de 3 000 francs CFA pour les villes de l'intérieur du pays. L'arrêté, entré en vigueur après sa signature par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinan, intervient à la suite d'un avis de la Commission consultative du travail. Dans un discours hier soir à la veille de la 54e fête nationale de la jeunesse, le président camerounais Paul Biya a affirmé que les pouvoirs publics mettaient l'accent sur le développement du système éducatif qui représente 1/7 des dépenses de l'État en termes de donations budgétaires en 2020. Reconnaissant que l'économie nationale ne crée pas suffisamment d'emplois, M. Biya s'est toutefois réjoui de la création de 500 000 emplois en 2019 dans le secteur moderne du pays. Le secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires de l'ONU, Mark Lowcock, a appelé la communauté internationale à aider les pays d'Afrique de l'Est où 10 millions de personnes résident dans des zones touchées par les criquets pèlerins. Précisant avoir débloqué 10 millions de dollars pour cette calamité, il a affirmé que cette situation était la pire depuis 70 ans pour le Kenya et depuis 25 ans pour l'Éthiopie et la Somalie.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Dernière mission d'inspection CAF pour le CHAN 2020.
Oui, à 6 jours de la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupe, une mission d'inspection de la CAF est au Cameroun pour régler les derniers détails de l'organisation. Cette dernière mission du genre va visiter les sites de compétition à Douala, Limbé, Boya et Yaoundé, de même que les hôtels, hôpitaux et autres contenus dans le cahier des charges. Après cette cérémonie, toutes les délégations visiteront leurs sites de compétition pour se familiariser. Le CHAN est prévu du 4 au 25 avril.
Paul-Georges Ntep a résilié son contrat avec Wolfsburg.
L'ailier international camerounais a résilié son contrat avec le club allemand. Lui qui avait été prêté à Kayserispor l'été dernier avant de faire son retour à Wolfsburg début décembre, prêté à Saint-Étienne en deuxième partie de saison dernière, Paul-Georges Ntep ne s'y est pas vraiment relancé, pas plus qu'en Turquie où son aventure du côté de Kayserispor n'a duré que 3 mois, la faute aux problèmes financiers du club turc. Il était arrivé en Bundesliga en janvier 2017 contre 5 millions d'euros versés à Rennes. Le natif de Douala n'y a disputé que 19 rencontres.
Le Maroc domine les championnats d'Afrique junior et senior de karaté.
Oui, avec 37 médailles, dont 15 en or, le royaume chérifien a raflé plus de breloques lors de la compétition qu'il a accueillie à Tanger. L'Égypte se classe deuxième avec 39 médailles, dont 11 en or, suivie par l'Algérie. Au pied du podium, un autre pays du nord du continent, la Tunisie, avec ses 8 médailles. Le Sénégal complète le top 5 avec 11 médailles. Le Congo, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Bénin et le Burkina Faso bouclent le top 10, tandis que le Nigeria, le Botswana et le Niger et le Cameroun s'en sortent avec au moins une médaille en bronze.
James Durant et Curry dans la présélection américaine pour les JO.
LeBron James a été inclus dans la présélection américaine pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, tout comme les blessés Stephen Curry et Kevin Durant. Le coéquipier de LeBron James aux Lakers, Anthony Davis, fait aussi partie de ce groupe de 44 joueurs, parmi lesquels 12 seront choisis pour participer aux JO. La sélection américaine qui tentera d'obtenir un quatrième titre olympique consécutif après ceux de 2008, 2012 et 2016 sera dirigée par l'entraîneur de San Antonio, Greg Popovich.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a reconnu pour la première fois l'ouverture d'un dialogue avec les chefs djihadistes Iyad Agali et Amadou Koufa. Il confirme ainsi une information qui courait depuis des mois. Comment cette annonce a-t-elle été accueillie au Mali? Pour une réaction, Bagassi Koura a joint l'analyste politique proche de l'opposition, Nuhum Togo.
La réaction du président de la République, il y a seulement une semaine, le ministre des Affaires étrangères malien se vient de ramener sa tête pour dire qu'il n'y a pas de négociation. Ce n'était pas la logique du gouvernement d'aller négocier avec les djihadistes parce que Diongunda, le vrai représentant du président de la République, a laissé entendre qu'il y a des négociations en vue, en pourparler en vue, et qui vient sorti pour dire que ce n'est pas vrai. Alors, donc, si le président confirme cette la négociation, pour nous, ça montre l'amateurisme au sein de la gestion du gouvernement, parce que ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas une cohésion au sein du gouvernement pour une volonté de trouver la solution pour le peuple malien. Aujourd'hui, la situation est très difficile. Il fallait attendre tous ceux qui ont pillé ce pays, tous ceux qui ont saccagé ce pays, tous ceux qui ont tué les Maliens dans les répondre devant une justice. Mais accepter d'aller négocier avec Koufa, aller négocier avec aujourd'hui Iyad Agali, qu'est-ce que nous allons négocier avec eux pour aller dans l'application de la Sharia ou accepter donc, de renoncer à l'intégrité d'une partie du territoire national? Sinon, qu'est-ce qu'il y a à négocier? Nous restons toujours à l'écoute, nous verrons concrètement, mais pour nous, c'est une déception.
Est-ce qu'il fallait le reconnaître publiquement?
Je suis d'accord avec vous. Les États-Unis négocient donc, avec les talibans, d'autres, mais jamais on ne voit pas un président des États-Unis ou un président français sortir pour négocier. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'a poussé le président de la République, notre président de la République, à sortir devant la face du monde.
Alors, après plusieurs années d'absence, l'armée malienne est finalement en route pour Kidal. Comment vous appréciez cela?
Une armée décomposée, une armée où, divisée par trois, le Mali prend une partie, la Sima prend une autre et le Gatia prend une autre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le programme est très clair. Précisément, le 25 février, il y aura d'autres armées, la mission qui va aller sur Gao. C'est-à-dire, ils vont envoyer une armée décomposée à Gao. Et le 25 mars, ils vont envoyer une armée récomposée à Tombouctou. Le 25 mars, on va envoyer une armée récomposée à Ninaka. Ça veut dire quoi? L'armée récomposée, le Mali donne, par exemple, les 300 et quelques envoyés. Le Mali a donné 100 et quelques. La CEMA a donné 100 et quelques. Le Gatia a donné 100 et quelques. Donc, dans ces conditions, finalement, quel type d'armée nous avons? Comment ça sera commandé? Et ça sera géré par les responsables, tout ce qui a été nommé par le gouvernement avec la complicité, parce qu'à un moment donné, Kidal a été donné à la SEMA, Menaka a été donné au Gatia et Tomoki a été donné au NAA. Finalement, nous voyons que la situation devient plus en plus très compliquée pour nous. Il est bon de renforcer et de travailler pour rééquiper notre armée, pour donner la force à l'armée. On ne va pas accepter le principe, c'est une imposition aujourd'hui. Et la soi-disant communauté internationale pour demander d'appliquer l'accord. Si c'est comme ça qu'on applique l'accord, on accepte d'aller rapidement vers l'autonomie que nous n'avons jamais souhaité, on a bien dit.
C'était Nuhum Togo, analyste politique proche de l'opposition. Il était joint à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
direction la République démocratique du Congo pour parler du tollé des journalistes congolais qui menacent d'appeler au boycottage de la BBC après le licenciement d'un de leurs collègues de la radio britannique. Le journaliste congolais a été révoqué de la BBC pour une interview controversé avec un écrivain camerounais critique envers Kigali. Eddie Isango a joint à Dakar le délégué du personnel du syndicat de la BBC, Bruno Sanogo.
Monsieur Onana affirme qu'il s'est documenté avec plus de 40 000 archives des Nations Unies. Et mon collègue l'a interviewé comme on le fait, lui a posé les questions comme on le fait à la BBC en le challengeant sur les sources des informations qu'il publie dans son livre. Et cette interview a été diffusée non pas une fois, deux fois, mais quatre fois. Deux mois plus tard, Jacques Matande et neuf de ses collègues reçoivent des demandes d'explication. J'en fais partie parce qu'on a travaillé de près ou de loin sur cette interview. On a été sur la chaîne de diffusion. Et de ces demandes d'explication, certains ont déjà répondu, y compris Jacques. Alors que vendredi dernier, on était loin de Dakar, profitant du temps de vacances, j'apprends que le management de Londres est venu et a demandé à mon collègue et camarade de quitter la BBC et de ramener toutes les affaires qui lui avaient été confiées pour son travail à la BBC. Nous avons dû suspendre nos vacances pour rentrer d'instance.
D'après ce qu'on apprend, les collègues journalistes Jacques Matande auraient violé la ligne éditoriale de BBC. En quoi?
Je pense que c'est une bonne question qu'il faudra poser à la BBC. En quoi quelle ligne éditoriale a été violée? La question qui se pose aujourd'hui, d'où est partie cette investigation interne de la BBC? C'est soi-disant d'une plainte du gouvernement rwandais. À Jeune Afrique, le ministre des Affaires rwandais et l'ambassadrice du Rwanda, tous les deux, ont dit qu'ils n'ont jamais eu le moindre contact avec la direction de la BBC à ce sujet. Rappelons un fait qui est important. En octobre 2014, la BBC avait fait un documentaire de Rwanda Untold Story, l'histoire inédite du génocide rwandais, ce qui a valu en octobre 2014 sa suspension et de diffusion dans tout le Rwanda. Et en fait, la BBC est en train de, quelque part, confondre les deux histoires pour faire porter le chapeau à Jacques Matande et ses neuf camarades la responsabilité de la mettre en bruit avec les autorités rwandaises.
Quelle action pensez-vous à entreprendre?
Différentes actions. Nous travaillons avec des avocats sur le plan national et international. Nous avons tenté une médiation à l'interne. Étant délégué du personnel, on est souvent responsable aussi de la bonne ambiance au travail. Ce qui n'est pas le cas depuis vendredi. Tout le monde vient la peur au ventre. Tout le monde vient avec une ambiance de méfiance. Tout le monde vient se demandant qui sera la prochaine tête à tomber. Je pense que ce qui est sanctionné là, la BBC a un plan social qui est annoncé et pour passer en force, ils veulent couper la tête du syndicat. Jacques étant le secrétaire général, c'est ça la stratégie. S'il y a une chose à noter, c'est comme ça que nous prenons la chose.
Bruno Sanogo, délégué du personnel du syndicat de la BBC, il était joint à Dakar.
Connectez-vous, téléchargez la nouvelle application VOA Afrique, disponible sur iTunes et Google Play. L'ancienne application VOA ne sera plus disponible après le 15 janvier 2020.
Parlons maintenant d'un phénomène de société qui prend de l'ampleur. Les Africains sont de plus en plus nombreux à faire le choix de rentrer sur leur continent d'origine après une longue période passée en Occident. On les appelle les repates ou repatriés, un néologisme construit sur le modèle du mot expat, désignant donc ceux qui reviennent vivre en Afrique après avoir travaillé ou étudié à l'étranger. Reportage à Dakar d'Alison et Alexis Lekogo.
Après plus de 20 ans passés en France, Fadialo a décidé de rentrer vivre dans son pays d'origine, le Sénégal, en 2016. Une année plus tard, elle crée l'Institut académique des bébés, une structure dédiée à la formation professionnelle des métiers de l'enfance. Aujourd'hui, les apprentis nounous découvrent comment cuisiner des purées et plats pour bébés à base d'aliments bio.
J'ai voulu répondre à deux problématiques ici en créant l'IAB. La première, c'est une bonne prise en charge des tout-petits, qui est complètement défaillante dans notre pays malheureusement. En plus, beaucoup de femmes aujourd'hui sont au chômage faute de formation adéquate pour pouvoir travailler.
Contribuer à l'essor du continent, c'est aussi l'une des raisons qui ont poussé Djibril Fall à revenir s'installer en Afrique après plus de 2 décennies passées en Europe, principalement en Suisse. Il est le fondateur d'une ONG spécialisée dans la protection des enfants migrants.
Participer à l'Afrique, c'est une sorte de retour tout simplement d'investissement. L'Afrique a investi sur moi énormément, et le Sénégal sûrement aussi. Mais cette ressource-là que je suis devenu, quel que soit son niveau, devrait pouvoir après donner quelque chose à cette Afrique-là.
Chaque mois, plusieurs dizaines de repas se réunissent lors d'un after-work. Awali en est l'initiatrice. Rentrée au Sénégal il y a 3 ans et demi, elle a fondé un club destiné à favoriser la réinsertion de ces Africains qui ont longtemps vécu à l'étranger.
Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un espace d'échange pour les gens comme moi qui venaient ou revenaient des États-Unis ou d'Europe, venir ici concrètement réaliser, ou en tout cas essayer de réaliser l'Afrique de leur rêve de près, enfin sur place, hein, plutôt que de la rêver passivement de loin. Et donc je l'ai créé, hein, j'ai mis la main à la poche, j'ai retroussé les manches et j'ai lancé ce club.
Difficile de mesurer l'ampleur de ce retour des cerveaux. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, ne dispose pas encore de chiffres, mais reconnaît le phénomène et l'encourage même à travers différents programmes.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, les élections législatives et municipales se sont tenues le week-end écoulé au Cameroun. Les observateurs parlent d'un fort taux d'abstention et le RDPC au pouvoir devrait maintenir sa majorité au Parlement. Du côté de l'opposition, le MRC de Maurice Kamto, qui avait appelé au boycott, se frotte les mains. Ceci alors que les zones anglophones continuent de subir les effets de la violence qui y sévit depuis 3 ans. Le président Biya a lancé un appel aux jeunes des régions anglophones à déposer les armes. Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le président Donald Trump propose une réduction de 21% de l'aide étrangère. Mais le département d'État soutient le projet de budget pour 2021. Certains législateurs américains affirment que les réductions proposées vont affaiblir la sécurité nationale et le leadership des États-Unis dans le monde. Un reportage de la correspondante diplomatique de VOA, Cindy Sain, avec le récit d'Abdourahmane Dia.
L'aide américaine accordée aux pays en développement et aux organisations internationales est la cible de coupes drastiques dans le budget de l'administration Trump pour la 3e année consécutive. Le Congrès a systématiquement rejeté ces coupes et même alloué plus d'argent, provoquant cet échange au département d'État lundi. Matt Lee est reporter diplomatique à AP.
Au cours des 3 dernières années, vous savez, ces propositions ont été faites, et même s'il s'agit d'une réduction de 21% et non de 34 ou 35 comme les années précédentes, les législateurs s'en étaient moqués.
Jim Richardson, directeur du service de l'aide étrangère au département d'État.
Nous nous en tenons à ce budget. Il donne la priorité aux besoins les plus importants identifiés par les cadres du département d'État et l'USAID. Il s'agit d'un processus ascendant qui nous permet d'établir des priorités.
Certains membres du Congrès ont rapidement dénoncé les coupes. Le président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre, Elliot Engel, les a qualifiées d'irréfléchies et a déclaré qu'elles affaibliraient le leadership américain dans le monde si jamais elles étaient adoptées. Certains experts insistent sur l'importance de l'aide étrangère pour la diplomatie américaine. Brian Kutulis du Center for American Progress.
We're not doing that.
Si nous ne le faisons pas, d'autres endroits vont voir plus de violence. Une mauvaise gouvernance est le genre de problème que le président Trump essaie de résoudre en construisant le mur à la frontière sud. Ce sont des choses comme ça que cible l'aide étrangère.
Le département d'État affirme que, quoi qu'il en soit, les États-Unis resteront le plus grand pourvoyeur d'aide humanitaire et en matière de santé, appelant néanmoins les autres pays et partenaires à faire davantage.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Joselle Morissin, À la console, Mireille Dubinsky. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, VOA Afrique, sans oublier nos pages Instagram, Facebook et Twitter, bien sûr. Restez avec nous, tout de suite un nouveau point sur l'actualité, suivi du monde au féminin, présenté par Nathalie Barge. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique. Les